grand dialogue
Sigikafoba
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour Grand Dialogue de ce soir. Grand Dialogue de ce soir, 1er septembre 2014, consacré à la deuxième phase des pourparlers intermaliens à Alger. Ces négociations, faut-il le rappeler, ont pour document de base les accords préliminaires de Ouagadougou, les résolutions de l'Union africaine et celles des Nations unies. Tous ces documents soulignent le caractère intangible de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État malien. Si toute la communauté internationale est engagée pour la paix définitive au Mali, sur le terrain, les armes ne se sont pas tuées complètement. Et pour ne rien arranger à la chose, les mouvements politico-militaires réunis dans une plateforme parlent de plus en plus d'autonomie, alors que l'État malien évoque la possibilité d'une décentralisation poussée. Dès lors, comment réconcilier les deux parties, rapprocher les positions? Et comment aboutir à la paix totale sur le terrain en minorant la donne djihadiste? Autant de questions que nous allons aborder dans ce débat. Pour en parler, nous avons dans ce studio M. Amadou Aya du Parti Yelema, mouvance présidentielle. M. Amadou Aya, bonsoir.
Bonsoir.
M. Amadou Koïta du Parti Socialiste, membre de l'opposition. M. Amadou Koïta, bonsoir.
Bonsoir.
Et un membre de la société civile, M. Moussa Souma Maïga, chef Sangoy. M. Moussa Souma Maïga, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, le décor étant planté, nous allons partir directement à la première question. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que les conditions sont réunies pour une paix définitive au Mali? Qui veut prendre la parole en premier lieu, M. Aya?
Ben ok, merci. Bonsoir, chers auditeurs. Donc, en fait, nous disons plutôt qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour un dialogue entre Maliens. Et ces conditions est l'aboutissement de plusieurs mois de travail depuis les accords de Ouagadougou et le travail colossal de la communauté internationale qui nous a mené aujourd'hui à une feuille de route consensuelle qui a été signée le mois passé et qui aujourd'hui va être, n'est-ce pas, je veux dire l'essence sur laquelle nous allons travailler pour arriver à une fin, une paix durable et définitive. Donc on peut dire aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour aller vers une paix durable si les parties jouent le jeu.
Ok, et je voudrais rappeler aux auditeurs que derrière ce micro c'est Suleiman Kenza Sidibé pour l'animation du débat à la partie technique, M. Noundiré. Alors M. Koïta, les conditions sont-elles réunies ou bien peut-on dire qu'aujourd'hui on part pour une paix définitive au Mali?
Notre souhait est qu'on parte pour une paix définitive. À partir du moment où les parties belligérantes ont accepté d'apposer leur signature sur une feuille de route qui respecte un certain nombre de préalables, l'unité du pays, l'intégrité territoriale du pays, la forme républicaine et laïque, je pense qu'en ce moment, malgré certains actes qui se sont posés après la signature de cette feuille de route, nous pouvons espérer que les conditions soient aujourd'hui réunies pour que nous puissions aller à un règlement pacifique de ce conflit qui n'a fait que durer, qui n'a fait que couler du sang et des larmes.
Alors, M. Moussa Souma Maïga, vous êtes confiant pour ces négociations?
Merci bien. Moi, je suis confiant pour ces négociations parce que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un problème, sa gestion, c'est sa préparation et les hommes qui sont dans sa gestion. Et je crois que tout cela, toutes ces conditions sont réunies. Et il faut y croire. Il faut voir dans le bon côté des choses. Moi, je pense que ça avancera.
D'accord, vous êtes du Nord, vous êtes au courant de ce qui se passe au quotidien. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que les armes se sont tues complètement au Nord?
Merci bien. Et les armes, il est facile qu'elles crépitent, mais il n'est pas facile qu'elles se taisent. C'est comme il est facile de détruire, il est difficile de construire. Donc pour cela, nous sommes obligés de passer par certaines étapes et refaire le chemin à pas pesant. pour atteindre et pouvoir atteindre l'objectif qui est l'objectif pour tout le monde, qui est que nous retrouvons la paix dans notre chère nation et que tous les Maliens puissent revivre ensemble comme nous l'avons été pendant des siècles. Parce que si vous prenez notre pays, tous les Maliens sont parents de Kaya Tenza. Lorsque vous touchez un, vous faites couler la veine de l'autre. Donc c'est le Mali qui est perdant dans tout cela et c'est nous tous qui sommes perdants.
Alors, deuxième question, est-ce que peut-on dire aujourd'hui que tous les sujets seront abordés ou bien sont abordables pour ces pourparlers par rapport à aux régions du Nord? Monsieur Koïta, Amadou.
Oui, à part le préalable qui a été fixé, je pense que toutes les questions, notamment le développement des régions du Nord, les questions de renforcement de la décentralisation, les questions de débats intra-communautaires, je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies avec l'accompagnement de l'ensemble des forces vives de la nation, de la communauté internationale, sous-régionale, CDAO, Union africaine, Nations unies. Je pense que nous devons croire, nous pouvons croire que Alger pourra produire un document qui nous permettra enfin de ramener la paix et la sécurité dans la zone septentrionale de notre pays. Mais il y a des hicks. Jusqu'il y a quelques jours, nous avions lu dans la presse la déclaration de ces groupes armés qui continuent à réclamer l'autonomie ou un statut particulier. Je pense qu'à ce niveau, c'est des débats qui vont continuer, c'est des négociations qui seront menées, mais je ne pense pas que cela soit une solution à ce conflit du Nord. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'identité qui se pose au nord du Mali, puisque ceux qui ont pris les armes ne représentent pas la minorité des nordistes. Et aujourd'hui, il y a des groupes qui se créent également. Et là aussi, c'est une crainte. C'est une crainte. Des groupes qui se créent à tout bout de champ. Je pense que dans un État républicain, dans une république surtout, les seuls qui sont habilités à porter les armes, surtout ceux qui se reconnaissent dans l'État, ceux qui pensent qu'ils sont maliens, qui se reconnaissent dans l'autorité de l'État, dans la souveraineté de l'État, je pense que seules les forces armées de sécurité doivent porter les armes. Donc c'est des inquiétudes qui sont là. Et je pense que cette plateforme nous inquiète un peu, mais nous osons espérer que c'est les intentions, que les uns et les autres reviendront à la raison, puisque cette paix est une denrée rare où chacun doit mettre son sien pour l'arracher.
Ok, Monsieur Moussa Souma Maïga, chef Songoye, est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes? Une minorité, plus c'est les expressions de Michel Amadou Koïta du Parti Socialiste, qui demande l'autonomie, et des groupes qui se créent. Est-ce que vous pensez que ce sont des points de blocage, là, des négociations?
Bon, moi je pense qu'un mot, c'est son contenu, c'est ce qui est le plus important. Et cela ne me fait pas du tout peur, parce que nous avons tout vu. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'avoir peur pour chercher à atteindre cette paix, reconstruire, ressouder notre nation. On ne doit avoir peur de rien, parce que nous avons traversé tous les moments difficiles. Maintenant, là où je vais apporter un petit détail, c'est quand il a parlé de la création des milices, et que toute personne qui doit porter une arme doit être sous le drapeau national. Moi, j'ai eu ce souci depuis quand il y avait l'MFUIA. Parce qu'il est dangereux dans un État. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Et moi, mon rôle, c'est quand même dire la vérité parfois. C'est qu'on privilégie une communauté avec les moyens de l'État au-dessus des autres communautés. Ça fait partie des conséquences que nous vivons aujourd'hui.
Qui privilégie? Allez-y, qui privilégie?
C'est l'État. Parce qu'à un moment, c'était au temps du MFIA, c'était le MPA qui avait les moyens de l'État. Après cela, il y a eu la création des milices à connotation ethnique. Je dis ça, ça explose un pays. Ça explose un pays.
Monsieur Amadou Aya, du parti Yelema, vous avez les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes? par rapport à ces groupes, à ces milices, à une partie minoritaire qui demande l'autonomie. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des, vraiment, des préliminaires des négociations?
Moi, je pense que la création de milices dans un État n'est pas tout souhaitable. C'est quelque chose à combattre avec la dernière énergie. Parce que, comme l'a dit M. Koïta, nous sommes dans une république. Donc, les seules habilités à porter les armes, à nous défendre le territoire national, ça, c'est les forces armées de sécurité. Donc, la création de ces groupes armés peut effectivement constituer une menace. Mais, comme l'a dit M. Souma, je pense que quand on regarde un peu l'expérience passée, les négociations qui s'ouvrent présentement doivent mettre à profit, n'est-ce pas, toutes ces insuffisances passées au niveau des différents accords pour arriver vers une paix durable. Parce que quand on parle de paix durable, ça veut dire que nous n'avons plus droit, n'est-ce pas, à des erreurs qui ont été commises par le passé. Et ce qui est important aujourd'hui, que des groupes naissent ou pas, c'est que nous avons une feuille de route. Il y a des préalables qui ont été établis et ces préalables ont été cautionnés par l'ensemble de la communauté internationale. À savoir, comme on le dit, il faut tout le temps répéter l'intégrité du territoire, la laïcité, donc l'unicité du pays.
Mais
donc,
les groupes armés aujourd'hui évoquent de plus en plus l'autonomie.
Oui,
est-ce que la feuille de route tient encore?
Mais la feuille de route tient encore dans la mesure où nous partons vers une négociation, sur une table de négociation. Ils se sont réunis pour, n'est-ce pas, faire les déclarations et leurs plateformes. Mais ils vont avoir du répondant. C'est des négociations, il n'y a pas de sujet tabou. Dès l'instant que les préalables ont été reconnus par tout le monde.
Monsieur Aminou Koïta, du Parti Socialiste, il n'y a pas de sujet tabou?
Non, il doit y avoir de sujet tabou. En plus de la souveraineté et l'intégrité territoriale, je pense que l'autonomie ne devrait pas être évoquée. Si réellement les parties belligérantes se sont inscrites dans un processus de paix. Mais je pense que l'État aussi doit prendre quelque part ses responsabilités. Monsieur Aya, en disant que les groupes qui se créent, je pense que c'est quelque part une absence de l'État. Au moment où nous nous inscrivons dans un processus de paix, nous ne pouvons pas comprendre que des groupes se créent et prennent encore des armes. Là où il y a les armes, il n'y a pas la paix. Est-ce parce que ces groupes estiment que l'État n'est pas en train de jouer son rôle, qu'ils sont délaissés, ou ils pensent aussi qu'il faut prendre les armes pour être entendu dans ce pays? Si c'est le cas, cela est fâcheux et regrettable. Nous avons des craintes, voilà pourquoi on avait souhaité depuis le début que l'État malien soit maître de son destin. Malheureusement, dès les premiers pourparlers à Ouagadougou, plutôt en Algérie, et même la feuille de route de l'État a été sujet à polémique. Notre État a été obligé de soumettre sa feuille de route à la partie de médiation à l'Algérie pour apporter certes des amendements ou bien des correctifs, tout ce qui est regrettable. Aujourd'hui, nous nous posons la même question, est-ce que l'État malien est en position de force par rapport à ces négociations? Est-ce que l'État malien contrôle suffisamment tous les contours pour empêcher qu'on ne soit dans un alignement total?
D'accord, ok. On va aller observer une minute de pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Ségou sur Radio Foucault 100.8 MHz et la radio Sania 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou 98 MHz. Issaber de Niafunké 96.3 MHz.
Je rappelle aux auditeurs que le débat de cette soir porte sur la deuxième partie des pourparlers intermaliens à Alger, dont le coup d'envoi a été donné cet après-midi à 15h. Et pour en débattre, nous avons dans ce studio M. Moussa Souma Maïga, chef Sangoué, M. Amadou Koïta du Parti Socialiste, membre de l'opposition, et M. Amadou Aya du Parti Yélema de la mouvance présidentielle. Nous abordons la deuxième partie de ce débat, à savoir le statut du Nord. Les groupes armés parlent de plus en plus d'autonomie. Est-ce un retour en arrière? Le principe de décentralisation poussée, réclamé par l'État, est-il enterré? Va-t-on vers une rupture? Alors, M. Amadou Koïta du Parti Socialiste.
Oui, je l'ai souligné tout de suite. Nous avons des inquiétudes par rapport à cette évolution. Comme je vous ai dit, la déclaration de Ouagadougou nous interpelle tous et nous inquiète. À partir du moment où les groupes armés se sont inscrits dans un processus mentionné dans la feuille de route. Je pense que en ce moment, l'Algérie, qui est le pays médiateur, devrait aussi être garant. Parce que nous avons lu la feuille de route. Les débats doivent se mener conformément à l'esprit de la feuille de route. Aujourd'hui, du fait qu'on demande une autonomie est une forme d'indépendance déguisée. Au moment où il demande un statut particulier, c'est une forme déguisée d'indépendance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, ce que la partie malienne doit savoir, la délégation malienne doit savoir, vous aviez fait référence tout de suite aux accords de Ouaga de 2013, en mentionnant l'intégrité, mais vous avez oublié un aspect qui était également l'impunité. L'accord de Ouaga a bien mentionné que l'impunité ne doit pas passer. Malheureusement, nous avions assisté aussi pendant ces derniers jours la volonté du gouvernement qui ait une autre lecture de l'esprit de Ouaga. En libérant des gens qui ont commis des crimes odieux, en pensant que cela contribue également à l'apaisement, je dis non. L'impunité n'a jamais ramené la paix. L'impunité n'a jamais réconcilié les uns des autres. Nous sommes en train de procéder, nous sommes en train de faire des ouvertures. De l'autre côté, nous avons assisté à quoi? Les deux camps ont été baptisés, l'un Intala, l'autre Bahanga, tout ce qui est une provocation. À partir du moment où les groupes rebelles reconnaissent la souveraineté du pays, pourquoi encore ils ont des velléités indépendantistes et séparatistes et continuent à vouloir occuper de plus de terrain? Je pense que là, c'est des inquiétudes qui sont là. Voilà pourquoi on demande au gouvernement de se préparer à toutes les éventualités. Toutes les éventualités.
Ok. Monsieur Moussa Souma, chef Sangoué, est-ce que vous avez le sentiment que les groupes armés sont animés d'esprit d'indépendantisme et de velléité vis-à-vis de l'État?
Bon, moi je n'occulte pas l'essentiel. Je crois qu'en matière de négociation, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire pour monter la barre haut. Et puis c'est se contenter de plus peu. Donc vraiment, moi je. Ça me donne des soucis, mais ce n'est pas un souci majeur. L'essentiel n'est pas occulté. Et l'essentiel, c'est la laïcité, l'indivisibilité de la nation qui a été signée par eux-mêmes devant le monde entier. Donc ce que un grand nombre a signé et ce qu'une seule personne est en train de dire, moi je ne mets pas les mêmes, je ne les mets pas au même niveau de poids dans la balance. Donc je me dis que c'est une manière de parler, je crois.
Monsieur Amadou Aya du Parti Yélema, vous avez le même sentiment? Vous avez le sentiment que tout ça, c'est pour faire la pression sur l'État malien?
Bon, je crois que l'État malien est un État responsable. Donc, ce n'est pas un groupe d'individus qui peut mettre la pression sur un État. Et comme l'a dit monsieur le chef Sangoué, c'est que nous partons à une négociation. Et quand nous partons à une négociation, dès l'instant que d'après M. Koïta lui-même il le dit, l'essentiel a été reconnu, accepté, qui est, tout le temps on le répète, ça a des caractères républicains, la laïcité, l'unicité du pays. Et dès l'instant que les pays, les groupes, tous les groupes armés ont reconnu cela devant la communauté nationale, ont apposé leur signature, je pense que la feuille de route a bel et bien défini les groupes thématiques et les thèmes qui feront l'objet de ces négociations. dès l'instant que tout le monde s'inscrit dans cette feuille de route, à mon avis, il n'y a pas d'inquiétude. Nous allons y arriver parce qu'il faut quand même faire confiance à ces hommes et femmes qui ont travaillé d'arrache-pied pour, n'est-ce pas, aller
oui,
à cette
oui,
table de négociation.
Mais concrètement, la déclaration des groupes armés demandant, réclamant l'autonomie, vous mettez ça au compte de quoi?
On a parlé du statut juridique, mais nous ne connaissons pas jusqu'à présent le fond de ce statut juridique. On a entendu, c'est des mots. Mais nous n'allons pas, je pense que nous appesantir sur des mots. Nous avons dit qu'il n'y aura pas d'autonomie, il n'y aura pas de fédéralisme, le pays ne sera pas divisé. Maintenant, ce que le gouvernement propose, je crois qu'on va revenir dans une partie.
Comme les agences de développement.
Exactement,
des, non, des
la région. Oui, la régionalisation est une réponse, n'est-ce pas, je pense qu'à une bonne gouvernance. Donc je pense que pour le moment, nous ne connaissons pas le contenu, n'est-ce pas, de leur autonomie juridique qu'ils revendiquent. Pour nous, l'essentiel c'est que c'est la feuille de route qui est le document officiel de travail des délégations.
Oui, mais à partir du moment où une feuille de route a été dégagée, engageant toutes les parties prenantes au conflit, puis les groupes armés parlent d'autonomie après, est-ce qu'il n'y a pas hiatus, il n'y a pas un problème d'accord entre les groupes armés et l'État malien?
Non, ça n'a pas été dénoncé. Ils n'ont jamais dénoncé cette feuille de route qu'ils ont signée. Ça n'a pas été dénoncé. Donc, je pense que l'essentiel se passera à Alger.
D'accord. Monsieur Moussa Soumamaïga, chef Sangoy, une question subsidiaire. Est-ce que la régionalisation aujourd'hui, c'est une réponse vraiment appropriée au problème du Nord?
Bon, moi, avant de répondre à votre question, je dirais qu'il faut que nous gardions beaucoup notre calme et notre sérénité. Parce que il ne faut pas que, comme mon cousin l'a dit, que des mots nous... qu'on soit distrait à cause de certains mots. C'est une situation grave, mais elle n'est pas insurmontable parce que tant qu'il y a problème, il y a solution. Il y a une seule chose qui n'a pas de solution, c'est la mort. Donc il faut que nous affrontons cette situation avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité. Maintenant, pour votre question, vous avez dit...
La régionalisation, est-ce qu'il y a une réponse appropriée au problème de développement des régions du Nord, du Mali, dans sa globalité?
Ah, bien sûr, ça fait partie des solutions du problème du Nord, la régionalisation.
Monsieur Koïta, vous avez la même lecture du Parti Socialiste, la régionalisation?
Oui, je crois que la régionalisation ou décentralisation renforcée, parce que la régionalisation est une décentralisation renforcée. C'est vrai, on est dans le processus de décentralisation depuis bientôt 18 ans. Malheureusement, elle n'a pas été bien menée jusqu'à bout, il faut le reconnaître. Il y a eu le transfert des ressources humaines, mais le transfert des ressources financières n'a pas suivi. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous nous inquiétons, pour revenir un peu. Moi, je dis c'est bien de signer un document, mais c'est encore mieux de poser des actes conformes à sa signature. Pour moi, à partir du moment où ces groupes armés ont même signé la feuille de route où ils se reconnaissent dans le Mali, le drapeau de MLA ne devrait plus flotter à Kidal et à 50 km de Gao, Djibok ou 60 km de Tombouctou Père. Malgré cet état de fait, si des actes sont en train d'être posés, je crois que là, nous devons faire attention. Voilà pourquoi nous avons des craintes. Notre souhait est que le calendrier qui a été fixé dans la feuille de route pour la signature définitive d'un accord, que cela soit respecté. Si cela n'est pas le cas, il faudrait que l'État aussi ait un plan B pour une sortie de crise.
Alors, je me tourne vers M. Moussa Soumamaïga, le chef Sangoy, représentant de l'autorité traditionnelle à Gao, mais un peu aussi au nord par rapport aux autres collègues. Alors, concrètement, pour parler... Sur le plan international, ça se passe à Alger. Et au niveau local, au niveau des autorités, qu'est-ce qui se passe, autorités coutumières, concrètement? Est-ce que vous êtes en contact? Qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation?
Bon, par rapport à cette situation, comme vous l'avez demandé, nous sommes en contact. Et nous voyons les choses dans le bon sens. Nous réfléchissons en patriotes. Donc nous sommes déjà sur le terrain de l'apaisement. Et nous faisons confiance à la gestion qui va être faite de ce problème, parce que ça va être la meilleure cette fois-ci, moi je dirais depuis 1963. Parce que le vase a trop débordé cette fois-ci. Donc il y a eu beaucoup de... Il y a les institutions internationales, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine. Donc beaucoup de gens, beaucoup de côtés se sont intéressés à ce problème. Il est obligé d'être mieux géré que lorsqu'il se faisait avant, juste à côté, que pour calmer les esprits, je dirais, comme à la rustine. Donc nous travaillons sur ce plan, nous nous concertons. Et d'ailleurs, même le 1er mars 2014, j'ai organisé personnellement, sur initiative personnelle et fonds propres, une rencontre où j'ai convié tous les chefs de toutes les communautés. Et nous avons fait une rencontre à Gao, où nous avons abordé dans le même sens. Donc, nous voulons que ce problème se règle et nous travaillons à cela.
Les autorités coutumières sont-elles écoutées encore dans les régions du Nord, Gao, Kidal, Tombouctou? Est-ce que vous êtes écoutés encore?
Très bonne question. Parce que l'écoute de laquelle vous parlez vis-à-vis des autorités coutumières, ça fait partie un peu des conséquences et des raisons de ce problème que nous vivons aujourd'hui. Parce que les autorités ne sont pas très très écoutées, donc la culturisme s'est développé. Et cela, je crois que l'État l'a compris. Parce que quand on ne peut pas avancer, il faut reculer pour mieux sauter. Et le meilleur présent et l'avenir, il faut s'inspirer du passé pour le faire. Nous ne sommes pas très écoutés, mais ça commence à aller depuis les États généraux de la décentralisation, où accent particulier a été mis sur le cas des chefferies. D'ailleurs, à cette occasion, j'ai organisé aussi une rencontre à la mairie de Gao où nous avons fait une déclaration de reconnaissance envers les autorités pour soutenir cette initiative et les États généraux. Donc, ça va mieux qu'avant. Mais il faut reconnaître que ce problème du Nord, cet écrasement du coutumier et de la tradition en fait partie dans le Nord depuis l'indépendance.
Monsieur Amadou Koïta, du Parti Socialiste, vous avez ce sentiment?
Bon, je pense que...
L'autorité traditionnelle n'ayant plus de prise sur les choses, sur les décisions, sur les individus, donc c'est un peu le chaos, c'est ça un peu?
Je crois que Monsieur Souma vient de t'évoquer le plus important aujourd'hui, je l'ai dit en entendant de mes propos, qu'il faut qu'il y ait des pourparlers intracommunautaires et intercommunautaires. Intracommunautaire, c'est au sein des mêmes communautés. Inter, c'est entre communautés. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce conflit du Nord. C'est vrai, le fait que nos autorités coutumières, qui jouent un rôle extrêmement important, puisque c'est des régulateurs sociaux, tout cela doit contribuer aujourd'hui à une stratégie et une vision globale de résolution de cette crise. Quelle que soit l'approche, je l'ai dit, tant que quelque part, ceux qui sont victimes et qui malheureusement sont en grande partie ceux qui n'ont pas pris les armes et ceux qui sont protégés par les autorités coutumières, tant que l'État ne tient pas compte que l'impunité ne saurait être une règle de gouvernance sous une sortie de crise, ce sera extrêmement difficile qu'on puisse trouver une solution idoine. Mon souhait est que les autorités coutumières soient associées, puisque c'est elle qui peut également aider l'État malien à apaiser.
D'accord, nous allons observer la pause pour aborder la troisième question après.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Nous sommes à la troisième partie de ce débat. Je rappelle aux auditeurs du Studio Tamani que nous sommes avec M. Amadou Goïta du Parti Socialiste et membre de l'opposition. Monsieur Soumana Maïga, chef coutumier, chef Sangoué, et Monsieur Amadou Aya du parti Élément de la mouvance présidentielle. Alors, la troisième partie, la paix définitive est-elle possible? Peut-on en parler aujourd'hui? Peut-il y avoir un consensus entre les deux parties? La paix définitive, est-ce que pour autant peut-on ignorer le groupe djihadiste? Le groupe djihadiste, la peut-il s'inscrire dans la logique de la paix? La question est posée. Monsieur Moussa Soumana Maïga, chef.
Bon, pour chef Sangoué. Le cas des groupes djihadistes, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une partie qui peut s'inscrire dans cette paix, et il y a une partie qui ne s'inscrira jamais dans cette paix.
Pourquoi ?
Il faut qu'on se le dise. Parce que, vous savez, l'endoctrinement, à un certain niveau, il est irrécupérable. Ça crée l'irrécupérable. Mais j'ai dit que dans un problème, et pour gérer un problème, il faut essayer de récupérer le maximum. Il y a des djihadistes qui peuvent être récupérés et qui vont renoncer au djihadisme. Mais il y en a qui sont irrécupérables. Donc ça, la solution, il faut la chercher pour eux.
Monsieur Amadou Aya, du Parti Élément, peut-on parler aujourd'hui des paix définitives? C'est possible? Est-ce que peut-on en parler pour les régions du Nord, pour parler d'Alger?
Mais c'est possible.
C'est possible.
C'est possible parce que je crois que c'est toute la raison, n'est-ce pas, pour parler d'Alger. Nous avons parlé plus tantôt de pour parler entre les groupes armés et le gouvernement. Nous parlons également tantôt, n'est-ce pas, du dialogue inclusif, qui va concerner l'ensemble des communautés, que ce soit du nord, que ce soit du sud ou d'est ou du centre. Et nous osons espérer que c'est tel que ça a été défini par la feuille de route, c'est pour parler d'Alger, vont être la dernière. Maintenant, vous avez parlé du problème des djihadistes. Le djihadisme aujourd'hui est un phénomène qui dépasse les frontières, qui est aujourd'hui un phénomène qui est un peu partout, qu'il va falloir combattre. Mais cela n'est pas... Un seul État ne peut pas combattre absolument le djihadisme. Il faut qu'on se le dise la vérité. Ça doit être un problème mondial où toutes les nations républicaines doivent s'unir pour combattre le djihadisme.
Autrement dit, à vous entendre, donc pour la paix définitive au Nord, les pourparlers en eux seuls ne suffisent pas. Il faut éradiquer le djihadisme également.
Ah mais oui, il faut éradiquer le djihadisme. Vous avez aussi les narcotrafiquants dans cette zone qui se sont bien installés.
Amadou Koïta du Parti Socialiste, c'est votre lecture aussi?
Oui, il faut éradiquer le djihadisme. Je crois que c'est dans ce cadre que le Mali a même signé avec la France une coopération militaire. Ces djihadistes, en grande partie, sont des étrangers, ce n'est pas des nationaux. Et c'est des terroristes de grand chemin. Mais nous nous posons souvent la question, je voudrais que M. Aya me réponde ici, puisque après les attaques du 21 mai, le discours qui a été tenu par les autorités, c'est de dire que c'est les djihadistes qui nous ont attaqués. Est-ce que c'est avec eux qu'on est en train de négocier aujourd'hui? C'est une question qui mérite d'être posée. Je pense que nous espérons. Vous savez, nous sommes des optimistes. Un optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Nous sommes optimistes qu'on peut aller à la paix, parce que c'est la seule alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais la paix se construit sur des bases saines. La paix se construit sur des bases d'équité. Maintenant, les djihadistes qui sont en train de sévir au nord du Mali doivent être combattus avec la dernière rigueur. combattu avec la dernière rigueur. Ils ont les prolongements au Nigeria. Aujourd'hui, ils sont en train de déstabiliser le Cameroun. Ils ont les prolongements jusqu'en Irak. Ça, c'est les ennemis de la paix. Je pense que dans ce cadre, il n'y a pas à négocier. Les autres qui ont pris les armes pour des revendications politiques peuvent être autour de la table. Et là aussi, avec des préalables bien définis.
Oui, monsieur Amanda, il y a une partie qui veut répondre.
Oui, mais en fait, je crois que je n'ai pas écouté un seul instant un membre du gouvernement dire que nous avons été attaqués par des djihadistes. Ce qui est évident aujourd'hui.
Je n'ai pas compris.
J'ai dit, je n'ai pas entendu un seul membre du gouvernement dire que nous avons été attaqués par les djihadistes le 21 mai. Pourtant.
Ah non.
Non. Je pense que vous voulez savoir si nous sommes en train de négocier avec les djihadistes.
D'accord, nous tendons vers
la paix. Nous ne sommes pas en train de négocier. Rassure-toi, nous ne sommes pas en train de négocier avec les djihadistes.
Concrètement, question concrète.
Nous ne sommes pas en train de négocier avec les djihadistes.
Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui concrètement pour sortir du bourbier du Nord?
Mais ce qu'il nous faut concrètement aujourd'hui, c'est ces négociations du Nord vont aboutir, n'est-ce pas, à des propositions concrètes.
Les négociations sont des préalables, je suppose.
Oui, c'est des préalables. Ouais. Mais c'est autour de cette table que toutes les questions relatives, n'est-ce pas, au Nord, toutes les questions qui ont relatives, n'est-ce pas, à ces problèmes qui nous ont amenés là vont être débattues. Donc, je pense que dès l'instant que nous allons avoir les premiers accords et que l'ensemble des populations du Mali puissent adhérer, n'est-ce pas, aux accords qui vont être signés, je pense que c'est la solution la meilleure pour y arriver à une paix définitive.
Monsieur Amadou Koïta, concrètement, pour sortir du bourbier du Nord, les négociations sont-ils un préalable? Qu'est-ce qu'il faut concrètement?
Je pense que ces négociations vont surtout porter sur la gouvernance politique et administrative des régions du Nord, la gouvernance sécuritaire, la gouvernance économique et également un processus de réconciliation. Je pense que si elles sont menées à hauteur de souhait, en principe, elles doivent permettre de ramener la paix. Vous savez, la paix est un processus. Ce n'est pas facile. Mais l'essentiel pour moi, je dis, il faut qu'il y ait une implication de l'ensemble des communautés du Nord. Je dirais même qu'en cas de dépasse, s'il y a une impasse, qu'on fasse recours aux populations. Vous savez, interroger les populations à travers un référendum, les populations du Nord à travers un référendum, pour savoir est-ce qu'elles se reconnaissent aux revendications portées par ceux qui sont en train de parler à leur nom, pourra également être une solution. Si ce référendum dit non, je pense que la communauté internationale, tous ceux qui n'ont pas cerné jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'y a pas de problème ethnique au Mali, qu'il n'y a pas de discrimination au Mali, verront quand même que la majorité écrasante des populations du Nord sont toujours attachées au Mali et œuvrent pour la paix. Voilà ce que je peux dire.
Oui. Excusez-moi, je voulais rebondir sur la dernière partie du propos de M. Koïta. Nous nous inscrivons en faux, ou en tout cas, nous sommes contre une sorte de référendum pour les régions du Nord. S'il doit y avoir un référendum, il doit avoir un référendum pour l'ensemble, pour le territoire national. Donc il n'en est pas question, en tout cas pour nous, en tout cas à notre niveau, de notre point de vue, il ne faut pas qu'on aille vers un référendum des régions du Nord. Par rapport à la gouvernance politique qui vont être discutée à Alger, il ne s'agit pas seulement de gouvernance pour les régions du Nord, il s'agira de gouvernance économique et politique pour l'ensemble du pays.
Le nœud du problème, c'est le Nord.
C'est le Nord.
Quand je dis en cas d'enlisement, en cas d'impasse au processus de négociation, est-ce qu'il faut prendre les armes? Est-ce qu'il n'est pas encore mieux de faire entendre les chefs traditionnels?
Mais ils sont entendus.
Est-ce que...
Non, présentement, ils sont entendus dans la mesure où
ils
nous avons eu les États généraux.
Ils ne sont pas partis intégrants du processus de paix en Algérie.
Ah, mais si, ils sont... Non,
non, non, non.
Non, 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 non.
Moussa Soumana Maïga, chef Songwe. Alors, concrètement, pour sortir du bourbier du Nord, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Les négociations sont-ils des préalables? Qu'est-ce qu'il faut concrètement?
Merci bien. Moi, je dirais que pour sortir de ce bourbier du Nord... Il faut qu'il y ait de bonnes discussions. Je ne dirais pas négociations. Parce que c'est la discussion, c'est le réel dialogue. Parce qu'une seule personne ne peut pas parler ou faire ce qu'elle veut. Moi, j'appellerais ça discussion. Et qu'on oublie pas de gérer aucun détail concernant ce problème. Parce que ce problème, il vient de loin. Comme j'ai allé dire aux assises nationales, ce problème, il vient de depuis les années 60. Donc, il faut entièrement le cerner. Il faut chercher les causes profondes de ce problème. Et comme j'ai allé dire, il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution. Je pense qu'en ce moment, nous pourrons avoir le toucher réellement le problème, avoir les solutions, avoir une bonne gouvernance, une bonne justice, une bonne communication entre les communautés et que cela soit vraiment inclusif et que ça soit. C'est un chantier de tout le monde. Que personne ne soit laissé à côté. Parce que la nature a horreur du vide.
Oui, Michel Amadou Koïta, député du Parti Social, vous avez cette lecture que le problème vient de loin, depuis les années 60.
Oui, bien sûr, c'est un problème qui date bien avant l'indépendance. Modibo Keïta a réglé en partie sur le plan militaire. Ça n'a pas empêché que cette rébellion ressuscite en 90-91. Il y a eu les pactes nationaux, il y a eu les accords d'Alger, il y a eu les accords de Ouaga. Malheureusement, le problème persiste. Voilà pourquoi moi je me pose la question. Je dis, devrons-nous continuer à vivre dans une perpétuelle crise pour une minorité des minorités? Puisque la grande majorité des Touaregs sont des républicains. Ils sont républicains, ils travaillent pour le développement du Mali. Ils travaillent pour l'épanouissement de l'ensemble du Mali. Il y a une minorité qui a pris les armes, qui malheureusement est écoutée sur le plan politique et surtout à l'extérieur à une certaine audience. On donne l'impression que c'est l'ensemble des populations du Nord qui se reconnaissent en eux. Est-ce qu'il n'est pas aussi préférable souvent de donner la parole aux populations du Nord, aux Soreilles, aux Peuls, aux Bozo qui sont au Nord, aux Arabes qui sont au Nord, et qu'on se rende compte que non, la majorité des populations du Nord se reconnaissent dans un Mali uni, un Mali un et indivisible. Et cela est extrêmement important. Je ne vois pas en quoi Aya est un peu offusqué par rapport à ça. Dans les plus vieilles démocraties du monde, quand il y a des problèmes comme ça, c'est le peuple qui tranche.
D'accord. Un Mali uni et prospère, mesdames, messieurs, merci. C'est la fin de ce débat du jour. Le débat est terminé pour ce 1er septembre 2014. Jour à rappeler puisque la deuxième phase des pourparlers, c'était également cet après-midi à Alger. Nous précisons que le studio Tamani a des envoyés sur place à Alger pour informer au quotidien nos auditeurs sur l'évolution des pourparlers. Nous avions dans ce studio Moussa Souma Maïga, chef Songoy, M. Amadou Goïta du Parti Socialiste, M. Amadou Aya du Parti Yélema de la mouvance présidentielle. L'animation a été assurée par moi-même, Souleymane Kenza Sidibé. À l'antenne, il y avait Noun Giré. Merci, à bientôt.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Moundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.